VOA Afrique, les infos. À Washington.
Avec vous, Henri Francisque, 13h à Dakar, 14h à Yaoundé. Bienvenue à notre journal. On commence par l'actualité ici aux États-Unis. Le procureur spécial Robert Mueller est au Congrès américain aujourd'hui à Washington pour répondre aux questions des députés sur l'enquête concernant l'ingérence russe dans les élections américaines de 2016. L'audience à la Chambre des représentants vient de commencer. Robert Mueller a déjà fait savoir qu'il ne souhaitait pas aller au-delà du contenu de son rapport d'enquête remis en mars, dont les ambiguïtés ont laissé la porte ouverte à des interprétations divergentes sur le rôle du candidat Donald Trump face à l'intérêt exprimé par les Russes à l'égard de sa campagne présidentielle. Afrique maintenant, en Gambie, deux anciens militaires de la garde présidentielle ont accusé l'ex-président gambien Yahya Jammeh d'avoir fait exécuter une trentaine de migrants originaires du Ghana. Ils ont déclaré lors d'une audition publique devant la commission Vérité et Réconciliation que Yahya Jammeh a donné l'ordre d'abattre les migrants à une unité paramilitaire dont ils faisaient partie. Les détails avec Bagassi Koura.
30 Ghanéens faisaient partie d'un groupe de migrants clandestins ont été tués en juillet 2005. À l'époque, 44 Ghanéens et plusieurs Nigériens, Sénégalais et Togolais avaient été arrêtés sur une plage de Gambie alors qu'ils tentaient de se rendre en Europe. Yahya Jammeh a ordonné l'exécution de ces ressortissants étrangers présentés comme des mercenaires venus renverser le président, a déclaré Omar Jallo, qui était membre des Jonglers, une unité officielle de soldats choisie au sein de la garde nationale. Selon son récit qui confirme une enquête des ONG Human Rights Watch et Trials, ces 30 Ghanéens ont été séparés du reste du groupe et amenés dans le village du président Kanilé avant d'être conduits dans un lieu d'exécution en Casamance, la région du sud du Sénégal, frontalière de la Gambie. Les autres migrants ont également été tués, à l'exception de Martin Kiré, l'unique survivant ghanéen connu qui avait réussi à se libérer et à sauter du véhicule en marche pour s'évader, selon Human Rights Watch et Trials. Yahya Jammeh, en exil en Guinée équatoriale depuis janvier 2017, a toujours démenti être impliqué dans ces assassinats.
On reste en Afrique de l'Ouest. En Guinée, 4 suspects de nationalité guinéenne, sierra léonaise, libérienne et nigériane ont été condamnés à Conakry à la prison à perpétuité. Ils ont été reconnus coupables de l'assassinat de Tierno Aliou Diaouné, alors ministre sous la transition militaire en 2010. Les précisions de John Lindon.
Brillant intellectuel, Tierno Aliou Diaouné, 53 ans, avait été assassiné en février 2015 dans la capitale guinéenne et son véhicule 4x4 volé. Il avait été criblé de balles dans sa voiture dans la banlieue de Conakry. Ses assassins s'étaient introduits par la force dans son véhicule en début de soirée. Le procès de ces assassins, entamé le 18 mars et marqué par plusieurs suspensions, s'est achevé lundi soir devant le tribunal de Tixine dans la banlieue de Conakry, qui a sorti la peine d'une mesure de 30 années de sûreté. Les 4 prévenus ont tous nié les faits d'assassinat pour lesquels ils étaient poursuivis. C'est du moins ce qu'indique Mohamed Abou Kamara, leur avocat. Le ministre Tierno Aliou Diaouné avait été un acteur en 2006 et 2007 de la mobilisation de la société civile qui a ébranlé le régime du général Lansana Conté et l'ont contraint à nommer Lansana Kouyaté premier ministre. Sous le régime de la transition militaire dirigée par le général Sékouba Konaté en 2013, il fut nommé ministre de la Jeunesse et des Sports. Le Conseil national des organisations de la société civile de Guinée, dont Diaouné était membre, avait à sa mort dénoncé un assassinat lâche et l'irresponsabilité notoire de l'État. À noter que plusieurs assassinats similaires non élucidés se sont produits ces dernières années à Conakry.
VOA Afrique, une fenêtre sur le monde.
Le Sénégal se trouve au cœur de l'une des zones de pêche les plus riches du monde, mais depuis quelques années déjà, les poissons se font de plus en plus rares, ce qui affecte de nombreux pêcheurs artisanaux, comme dans la ville de Saint-Louis, où s'est rendu Echa Saraï. Son reportage.
À Saint-Louis, la pêche est une tradition ancestrale. C'est un savoir-faire qui se transmet de père en fils. Mais la pêche n'est plus ce qu'elle était il y a quelques années, a dit Ousmane Diop, pêcheur à Saint-Louis.
Nos parents avaient de la chance, des règles traditionnelles dont la communauté des pêcheurs était bien respectée. Mais maintenant, tout a changé. Les familles s'élargissent et on utilise du matériel qui n'existait pas avant.
Le marché est saturé. Les familles sont plus larges et les enfants constituent une grande partie de la main-d'œuvre. Beaucoup de pêcheurs vont pêcher plus loin, en Mauritanie notamment. La Mauritanie a augmenté la sécurité dans ses eaux. Et les pêcheurs sénégalais qui s'y aventurent, comme Malik Fall, risquent d'être arrêtés et condamnés.
Si tu payes, on te rend ton matériel. Si tu ne payes pas, on va le confisquer. Mais on va te tenir là-bas deux jours.
Mais à part ces difficultés avec les autorités mauritaniennes, Fall et les autres pêcheurs disent que le problème le plus pressant est celui de l'avancée de la mer.
L'avancée de la mer affecte notre travail. C'est pourquoi on ne peut pas atterrir au bord de la mer. On est obligé de faire le tour. Sur la brèche.
La mer a englouti des bâtiments entiers sur la plage de Saint-Louis. Auparavant, des femmes séchaient le poisson sous des tentes sur la plage. Mais actuellement, elles sont obligées de travailler dans des petites échoppes en ville, a dit Aminta Sek, veuve d'un pêcheur.
On a subi des pertes. La difficulté la plus pressante ici, c'est que l'espace est réduit. C'est trop petit. Avec l'odeur du poisson et la chaleur, on étouffe. Au moins, quand on était au bord de la mer, on respirait de l'air frais.
Mais les pêcheurs et leurs familles disent qu'ils n'ont de choix que de s'habituer au travail dans les nouvelles conditions, a dit Mustapha Diang, secrétaire général du syndicat des pêcheurs au Sénégal.
Nous les pêcheurs, nous n'avons qu'une seule activité depuis nos arrière-grands-pères jusqu'à nos jours. Nous sommes pêcheurs de père en fils. Nous n'avons qu'un seul métier, c'est le métier de la pêche. Quand ça marche pour nous. Quand ça ne marche pas, ça ne marche pas pour nous.
Même en surmontant ces difficultés que leurs parents n'ont pas vécues, les pêcheurs s'inquiètent pour l'avenir de la pêche et celui de leurs enfants, qui risquent de se retrouver un jour sans gagne-pain. Isha Sarai, VOA Afrique, Saint-Louis.
Afrique centrale maintenant, Cameroun, le collectif d'avocats constitué pour défendre les centaines de militants du MRC, le mouvement pour la renaissance du Cameroun, interpellé depuis janvier, a dénoncé dans un communiqué ce mercredi ce qu'il appelle l'enlèvement brutal de plusieurs opposants politiques détenus à la prison centrale de Yaoundé qui ont été conduits vers une destination inconnue après la mutinerie qui a éclaté lundi soir dans ce pénitencier. Parmi les prisonniers, d'autres ont sans nouvelles, le vice-président du MRC, Mamadou Yakuba Mota, souligne le communiqué. Selon le collectif d'avocats, plusieurs détenus de la crise anglophone rejoints par des prisonniers membres du MRC d'opposition, dont son vice-président Mamadou Mota, ont organisé lundi une manifestation pacifique relayée sur Facebook pour dénoncer leurs conditions de détention. Protestation qui a conduit à des désordres au cours desquels plusieurs secteurs de la prison ont été saccagés et incendiés. Le gouvernement camerounais a annoncé mardi l'interpellation de 177 détenus, dont Mamadou Mota lui-même. Selon le communiqué de Yaoundé sur ce dossier, la responsabilité de la mutinerie incombe à un regroupement de personnes placées en détention provisoire dans le cadre de la crise anglophone. République démocratique du Congo, l'épiscopat catholique congolais annonce avoir obtenu du président ougandais Yoweri Museveni mardi une promesse de collaboration pour démanteler des groupes armés actifs depuis plus de deux décennies dans l'est de la RDC. Particulièrement, les milices musulmanes ougandaises des ADF, les forces démocratiques alliées. Plus de précision avec Ikia Badou.
Le président de l'épiscopat congolais, Monseigneur Marcel Outembi, et sa délégation qui participait à une assemblée plénière des évêques d'Afrique et Madagascar tenue à Kampala ont été invités à une audience auprès du président Museveni. Le président de la conférence épiscopale nationale du Congo, la CENCO, a saisi cette occasion pour transmettre au président de l'Ouganda la préoccupation de l'épiscopat congolais sur la présence des rebelles étrangers, parmi lesquels des milices du groupe armé ougandais musulman Force démocratique alliés, selon le communiqué. En réaction, le président Museveni a affirmé sa détermination à collaborer avec les autorités de la RDC pour le démantèlement de ces groupes armés qui sont aussi un danger pour son pays, peut-on lire dans ce même communiqué, soulignant l'importance de l'implication de la population concernée dans cette lutte. Opposés au président Museveni, ces miliciens musulmans ougandais présents dans l'est de la RDC depuis 1995 ne s'attaquent pas à l'Ouganda, mais commettent des exactions sur des populations congolaises. Monseigneur Monseigneur Marcel Outembi a réitéré la disponibilité de l'épiscopat congolais à accompagner, comme autorité morale avec les églises sœurs, les États concernés dans la lutte contre l'insécurité dans la région des Grands Lacs africains pour l'édification de la paix, souligne le communiqué.
Plus d'infos sur notre site internet voaafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.